un podcast France Culture.
Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Nous sommes en septembre 2005. Dominique de Villepin, Premier ministre, est alors engagé dans une procédure de privatisation de la SNSM, la Société Nationale Maritime Corse Méditerranée, qui assure les liaisons en ferry entre l'île de Beauté et le continent. Les syndicats de la compagnie y sont farouchement opposés, notamment la CGT et le STC, le syndicat des travailleurs corses. Pour lutter contre cette privatisation, des membres du STC tentent un coup de force. Le 27 septembre, ils s'emparent d'un cargo mixte de la compagnie à Marseille, le Pascal Paoli, et forcent l'équipage à faire route vers Bastia. Le détournement fait la une de tous les journaux et révèle les méthodes, disons musclées, du syndicat corse. La réponse du gouvernement ne se fait pas attendre. Le 28 au matin, des commandos héliportés du GIGN donnent l'assaut et reprennent le contrôle du Pascal Paoli. Les membres du syndicat n'opposent pas de résistance. Une longue grève s'ensuit. C'est dans ce contexte social tendu qu'un mois plus tard, les membres du comité de direction d'une grande entreprise de régie publicitaire se rendent au château de Romainville, en banlieue parisienne, pour leur traditionnel séminaire de motivation annuel « Bon enfant, esprit, team building ». C'est un récit tout de suite de Brice Gravel. Voilà ce qui s'ensuit.
Je m'appelle Guillaume Astruc, j'ai 58 ans, je suis marié, j'ai 3 garçons. Je me suis lancé en sortant de l'armée dans la vie professionnelle et par hasard, j'ai commencé dans une petite société de presse professionnelle. J'ai appris mon métier de chef de pub. En 1993, je suis rentré dans un groupe de médias, une entreprise privée qui est filiale d'un groupe public. En 1997, est arrivé un nouveau directeur général, Philippe, et l'année suivante, 98, c'est l'année de la Coupe du Monde de foot. Et j'avais notamment en charge la commercialisation des événements sportifs. Et plus tard, je serai directeur commercial, puis directeur général adjoint. En octobre 2005, on vient de changer de président. C'est maintenant Patrick qui est arrivé 2 mois plus tôt à la présidence du groupe. Et nous faisons, comme chaque année, notre séminaire de comité de direction. On est 11 membres de ce comité de direction, plus 2 consultants. Et nous allons à Romainville, où il y a une jolie demeure dans laquelle on travaille à différentes thématiques. Et puis, on arrive vers la fin de journée, il est à peu près 18 heures. Et tout d'un coup, il y a 9 hommes armés, cagoulés, vêtus de treillis, qui font irruption dans la salle où nous travaillons. Celui qui semble être le chef hurle tout le monde face contre terre, les mains dans le dos. Nous sommes alors menottés, cagoulés, mis à genoux. Philippe, le directeur général, hurle, il gesticule. Il est immédiatement exfiltré. À côté de moi, la directrice commerciale, qui est claustrophobe, ne supporte pas le sac noir qui lui est mis sur la tête et fait une crise d'angoisse. Elle est aussi immédiatement exfiltrée. Donc, c'est une situation de confusion absolument incroyable. Mais dans un premier temps, en fait, on est tous sous un effet de sidération. On ne bouge pas, on écoute. Tous les sens sont hypertrophiés. Et en même temps, on est vraiment dans le cerveau reptilien. Il n'y a pas tellement d'émotion. On ne ressent pas forcément de peur. En fait, on est vraiment dans l'observation de la situation, des opportunités qui peuvent se présenter, mais bon, il n'y en a pas. Il y a une espèce de moment de silence. Et puis, le chef nous explique qu'ils sont de la SNCM, qui est en grève à ce moment-là, et ils nous demandent de diffuser une cassette après le journal de 20h, pendant la coupure publicitaire, pour faire valoir leurs revendications. et ils veulent en parallèle que nous fassions un virement de 1 million d'euros sur un compte. Après ces explications, les trois membres du comité exécutif dont je fais partie, on est isolés du groupe et on est emmenés dans une petite pièce à l'étage pour continuer ce qui s'apparente à des négociations. À ce moment-là, il y a un des preneurs d'otages qui me tend son portable. Au bout du fil, je reconnais la voix de la fille du directeur général. Elle est en larmes et m'explique qu'un preneur d'otages est chez elle. Et elle me demande de faire ce qu'on nous demande. Là, j'essaie de leur expliquer le plus simplement possible les procédures qui existent et qui me mettent dans l'incapacité matérielle de satisfaire leurs demandes. Et progressivement, le sentiment d'être dans une impasse renforce la tension. Le sentiment qu'ils sont partout, qu'ils contrôlent tout, est très oppressant. Je suis pris à partie personnellement et j'entends « attention à lui, il est dangereux, il a fait les chasseurs alpins ». La connaissance qu'il semble avoir de nous est assez troublante. Et puis, au bout d'un moment, qui paraît quand même assez long, un peu plus d'une heure, où la situation de blocage est au summum, je suis finalement porté dans un grand escalier pour être redescendu avec les autres. Je suis soulevé de chaque côté par deux preneurs d'otages. Et dans un accès de colère et d'exaspération, je glisse mes jambes entre les leurs dans l'escalier et nous faisons une espèce de roulé-boulé à trois avec les armes qui tombent, c'est n'importe quoi. Et lorsqu'on se trouve tous les trois au sol, il y en a un qui me prend la tête, qui la cogne contre le sol. Je suis ensuite mis à genoux. Et là, tout s'arrête. Il y a un grand moment de silence qui dure. Et au bout de ce long moment, on me retire la cagoule, on m'enlève les menottes. Et une personne qui se présente comme étant la psychologue commence à nous expliquer que nous allons ressentir de la colère, mais qu'en fait, c'est un exercice qui était fait pour tester notre capacité à négocier en situation de stress. Il y a ensuite un moment de gêne pour tout le monde qui est palpable. Mais tout d'un coup, voilà, le voile se lève progressivement parce que c'est quand le stress s'arrête qu'on se rend compte à quel point on a accumulé de la tension. Tout au long de ça a duré 75 minutes à peu près, le moment vraiment de la prise d'otage, on ne cesse de basculer entre des moments où on se dit « mais non, mais ce truc-là, c'est pas possible que ce soit vrai, c'est énorme, on est dans un séminaire, forcément c'est un truc bidon et ça se passe tellement mal, c'est tellement grave ce qu'on est en train de vivre » que l'instant immédiatement après, on dit « ben non, c'est pas possible, c'est vrai quoi, il est vraiment en train de se passer ce truc-là ». Et donc, on alterne de l'un à l'autre, mais une fois que c'est arrêté, là, on est envahi par l'émotion, et c'est effectivement l'euphorie qui a dominé. Et donc les ex-preneurs d'otages enlèvent aussi leur cagoule, donc on fait connaissance avec eux. C'est des gens du GIGN qui sont plutôt super sympas, qui nous explique que eux aussi ils étaient vraiment stressés parce que en fait ils sont habitués à faire ce type d'exercice avec des personnels qui sont prévenus et que pour la première fois ils faisaient ça avec des individus qui n'étaient au courant de rien et donc potentiellement tout pouvait arriver.
je suis Bruno. J'étais à l'époque directeur de la communication de l'entreprise. Directeur de la communication et des études, plus précisément. Et donc, je faisais partie du comité de direction. J'étais rentré dans l'entreprise en 1999. Et puis j'avais déjà un âge, je ne vais pas dire un âge avancé, mais enfin j'avais déjà travaillé dans pas mal d'entreprises et un peu de recul professionnel, donc je dirais un peu de maturité professionnelle, si on peut dire ça. Donc le séminaire a lieu sur 2 jours. Le premier jour, nous sommes dans une salle de théâtre, il restait une scène dans le fond de mémoire. Et nous étions là, dans cette grande pièce en rez-de-chaussée, en train de... Je pense qu'on devait faire un jeu de rôle sur une thématique donnée. Ça se faisait beaucoup dans les séminaires d'entreprise. Et tout à coup, arrivent en hurlant, je dirais, 6-7 personnes armées, mais pas genre fusil de chasse, plutôt Kalachnikov. Donc d'un seul coup, vous avez un fusil d'assaut qui est à 1m10 de... à mettre vis de votre figure ou de votre ventre, quoi. Et là c'est un peu la tétanie, quoi. Et moi, le premier signe que j'ai eu quand ils m'ont mis les menottes, je me suis dit, tiens, ils prennent pas ma montre. Ça a été le premier palier de décompression, si je peux m'exprimer ainsi. Finalement, on sort de sa petite bulle et vous reprenez conscience de tout ce qui se passe autour de vous. Donc les négos s'engagent, la directrice financière leur explique que elle a pas 1 million en billets sur elle, ni dans son tiroir de bureau, ni quoi ni qu'est-ce. Qu'il n'y a pas de chef de chaîne à Romainville, on va pas pouvoir passer la cassette dans les cuisines du château. Ça tourne un peu à vide, c'est-à-dire que les revendications, elles sont un peu lunaires, et puis, en réfléchissant toujours la tête dans le sac et allongée à plat ventre, vous vous dites, généralement, quand on prend des otages, c'est pas avec les otages qu'on négocie, c'est avec les gens de l'extérieur. Et puis... ils nous disent qu'ils sont corses. Le chef de commando qui s'appelle Doumé. Doumé, il a un accent corse, mais qui fluctue un peu au fil des phrases. C'est-à-dire que vous vous dites, ce truc commence à sentir le bidon, mais c'est jamais pleinement avéré. C'est pas une certitude. Et puis à un moment, ça a été enlevé aux cagoules. Les cagoules ont été enlevées. Pour les menottes, ça a mis un peu plus de temps parce qu'ils ne trouvaient plus les clés. On nous explique que c'était un test, que c'était... En gros, c'était une opération de ce qu'on appelle de cohésion d'équipe. Vous savez, dans le jargon, on appelle ça du team building. Donc, ça fait tous les trucs qu'on a fait à une époque. On va scier un arbre, on va le porter à 12 et on va courir avec, quoi. Et puis après, on se raconte comment on a été grand, fort, et comment on est une belle équipe soudée. C'est des souvenirs de colo de vacances, quoi. Où on a fait sauter les gens d'un pont, où on prend les autres en otage, et on a fini plus tranquillement en faisant des cours de cuisine collectifs avec un 3 étoiles, quoi. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait un audit de sécurité qui avait été fait sur les locaux de l'entreprise. Parce qu'il y avait plus ou moins des menaces qui traînaient dans l'air. Et donc, il y a une entreprise qui était venue, qui avait tout checké. Ceux qui avaient monté la boîte étaient des anciens du GIGN. Et je pense que dans la foulée, cette entreprise, elle a proposé une opération un peu plus fun, un peu plus originale, un peu plus ci, un peu plus ça, ça. Mais là, en termes de cohésion d'équipe, on pourra en reparler, parce que c'est pas... Ça s'est pas avéré tout à fait efficient.
France Culture, les pieds sur terre.
Et puis tout le monde s'est assis au milieu de la salle en tailleur. Il y a un maître d'hôtel qui est venu avec le champagne. Tout le monde a bu le champagne tranquillou, il n'y en a pas un qui s'est barré dans sa chambre en colère. Après, pour le dîner, on a discuté avec ces 6-7 braves garçons. Qui étaient quand même des actifs du GIGN. Il n'y a pas eu de clash. Tout le monde était là le lendemain pour la suite du séminaire. Le lundi au bureau, tout le monde était là. Le mardi, tout le monde était là. Enfin bref, ça s'est enchaîné gentiment, quoi. Et puis, un des otages, entre guillemets, est allé balancer l'affaire au canard enchaîné. Là, on rentre dans une autre phase, quoi. Ouais, c'était un peu une entreprise de démolition ironique, hein, façon canard enchaîné. Et l'affaire, elle est partie un peu comme une traînée de poudre, quoi. Et là, moi, c'était dans mes responsabilités, donc je me suis tapé le canard enchaîné pendant 3 semaines. Et c'est pas facile, parce qu'ils sont extrêmement bien renseignés. Donc c'est pas la peine, tant que la source raconte pas de mensonges, c'est pas la peine de mentir non plus. Et là, ouais, c'est vrai, c'est que vous pouvez pas faire un pas sans qu'on vous dise, alors, nana. Et il faut raconter l'histoire, il faut aussi, il faut entendre tous les jugements divers et variés, etc., etc. Et à ce moment-là, des clivages qui étaient un peu préexistants, mais on sent que le fossé s'agrandit un petit peu. Il y a 2 camps. Et bon, après, c'est comme dans toutes les périodes de crise, hein. Il y a ceux qui sont foncièrement résistants, ceux qui sont foncièrement collaborateurs, ceux qui se disent qui sont légitimistes, il y a ceux qui tournent leur veste aussi, etc., etc., etc. Mais en fait, bon, quels que soient les gens qui étaient dans la salle, quels que soient les camps d'après ou d'avant, il y a plein de gens qui ont très très mal vécu cette opération. Pour mon cas personnel, moi, ça fait partie des très grandes peurs que j'ai pu avoir dans mon existence, même si elle a été courte, hein. Mais il y a des gens pour qui ça peut être une terreur totale. Alors, mon fort intérieur, je me suis dit, c'est quand même une connerie, parce que demain, il y en a 2 qui se portent malades, qui après, pour faire chier ou pas, vont chez le psy en disant qu'ils voient les loups la nuit et des fusils d'assaut. Ça peut tourner vachement mal, cette affaire. Ce qui s'est passé un petit peu d'une certaine façon, parce qu'il y a eu, des suites en justice.
Le lendemain, on rentre du séminaire, je rentre avec Philippe, et je lui dis quand même qu'il a pris un risque incroyable, qu'on aurait pu avoir une femme enceinte, quelqu'un qui pète les plombs, et il semble à la fois à l'écoute et en même temps sans véritablement se mesurer à quel point finalement il avait eu. Et puis moi je pars quelques jours à l'étranger, et lorsque je reviens, je suis appelé par le conjoint d'une de mes collaboratrices directes qui m'explique que, en fait, elle vit très mal cette situation, qu'elle a essayé d'en parler avec Philippe, que ça s'est mal passé, et il me demande mon aide. Et donc, je la reçois. Je reçois aussi les 3 autres membres du comité de direction qui étaient présents, et je me rends compte que chacun développe des symptômes différents, mais qui peuvent s'apparenter à des symptômes post-traumatiques. On essaye de voir un petit peu qu'est-ce qu'il est possible de faire, et puis je leur demande s'ils pensent que des excuses pourraient les soulager, les aider, et ils sont unanimes pour dire que oui. Et donc j'en parle avec Philippe, qui dans un premier temps ne réagit pas très bien, parce que voilà, il considère que il n'a pas à faire d'excuses, et puis il y consent finalement, et ce sera très apprécié des uns et des autres. Je pense à ce moment-là que voilà, que le plus dur est derrière nous, qu'on va pouvoir, entre guillemets, recoller les morceaux et repartir de l'avant. Mais début décembre, donc quelques semaines plus tard, le canard enchaîné sort l'information. Donc là, ça fait un effet de choc important sur tout le marché. On est harcelé à l'extérieur, tout le monde cherche à comprendre ce qui s'est passé exactement. Donc, c'était très tendu, et d'autant plus que certains de ceux qui avaient participé à ce séminaire dans mon équipe se faisaient porter pâle à chaque fois qu'il y avait un comité de direction, parce qu'ils ne voulaient pas se retrouver dans la même pièce que Philippe. Voilà, il y avait une espèce de peur qui s'était installée au point de ne plus supporter d'être en proximité. Et donc la situation se dégrade. Moi, je n'arrive plus à échanger avec Philippe. Je suis désemparé, et en concertation avec mon équipe, je décide de rédiger un courrier au président, mon N+2 en quelque sorte, Et donc, je prends rendez-vous avec lui pour lui remettre en main propre la lettre qui se termine ainsi. C'est un climat de peur qui s'est progressivement installé au sein d'une partie de l'entreprise. Le comportement de plus en plus imprévisible et excessif de son directeur général, que ce soit en interne ou auprès des clients, en est la cause principale. Mon intervention personnelle n'a rien changé. Nous sommes arrivés à un point où une crise mettant en péril l'image de la régie et les résultats de l'entreprise semble inéluctable. C'est pour tenter de l'éviter que je sollicite aujourd'hui votre aide, comme ultime recours, en suivant la voie hiérarchique. Le président semble sincèrement choqué par la description que je lui fais du climat dans l'entreprise et il me dit juste « Écoute, j'ai besoin que tu me laisses un petit peu de temps. » Je repars plutôt rassuré et confiant. Finalement, je reçois 3 semaines plus tard un petit mot de son secrétaire qui m'explique que le dossier a été transmis à la DRH du groupe qui va ouvrir une enquête. Et là, je comprends assez vite qu'en fait, on est surtout en train de monter un dossier à charge pour me faire sortir de l'entreprise. Et en fait, ça ne traîne pas puisque quelques jours plus tard, je suis convoqué chez Philippe qui me dit « Écoute, tu vas être convoqué dans 10 jours à un entretien préalable à un éventuel licenciement ». Alors je lui demande pour quelle raison, et il me dit écoute, tu verras à ce moment-là, ça sert à ça. Pour l'instant, il y a un vigile qui t'attend. Il va te raccompagner directement à la sortie. On te fera suivre tes effets personnels dans un deuxième temps. Et là, lorsque je passe devant le poste de sécurité, je vois une petite affichette, une note des services généraux qui est collée sur laquelle il y a ma photo. Donc on a l'impression qu'il manque que la mention wanted et il est écrit. Si cette personne se présente dans le hall d'accueil, ne laissez personne lui ouvrir, ne lui adressez pas la parole, ne la touchez pas. Donc ça, c'est assez, assez violent. Et donc, je vais à mon entretien préalable 10 jours plus tard, où là, bon, on peut dire que ça ressemble à une parodie, une espèce de florilège de tout ce qu'un manager peut faire comme erreur qui m'est reproché. En revanche, lorsque je suis à nouveau accompagné à la sortie par un vigile, m'attendent dehors une centaine de collaborateurs qui sont là, debout, qui forment une espèce de head honneur en m'applaudissant. Et donc ça, évidemment, c'est un moment d'une émotion incroyable et qui m'a beaucoup porté pour la suite, pour traverser le long parcours judiciaire qui durera 5 ans. Et j'ai donc mené 2 actions en justice en parallèle, l'une au pénal pour séquestration avec circonstances aggravantes parce qu'en réunion et avec menace d'armes, et une autre action au civil pour être indemnisé de ce licenciement sans cause réelle et sérieuse, et donc une action au prud'homme. Il y a quelques éléments très précis qui ont permis d'emporter la décision des juges. Tout d'abord, le document commercial de la société qui propose ce séminaire. Dans ce document, il y a très clairement précisé quels sont les effets attendus sur les uns et les autres, au moment de la prise d'otage, l'effet de sidération, la peur qui anesthésie tout, etc. Donc tout ce qui nous arrive psychologiquement est écrit noir sur blanc dans un document commercial signé par Philippe. C'est ça ma commande, c'est ça que je veux obtenir. Et tout est très précis dedans. C'est le premier point. Et puis le deuxième point, c'est qu'il y avait eu des attestations demandées aux uns et aux autres qui avaient participé, qui étaient toujours dans l'entreprise. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que chacun a essayé de présenter les choses de façon, on va dire, plutôt légère, mais qu'en fait, en isolant véritablement tout ce qui était dit factuellement, on arrivait à reconstituer la vérité. Notamment, une personne, membre du comité exécutif, avait déjà fait l'objet d'une véritable prise d'otage. Et lorsqu'elle décrit l'arrivée du GIGN dans notre salle de réunion, elle décrit bien quelque chose qui lui semble grave. Donc la matérialité de la peur qui nous a tous saisis, elle est démontrée par quelqu'un qui a déjà vécu cette situation pour de vrai. Moi, j'ai été notamment perturbé par la fille de Philippe que j'ai sur le portable d'un preneur d'otages parce que elle est en larmes au téléphone. Donc pour moi, à ce moment-là, il n'y a pas de doute sur le fait que cette histoire, elle est vraie. Et donc, c'est pas une mascarade, c'est vraiment un truc qui fout la trouille à tout le monde. Et la justice a effectivement condamné Philippe pour séquestration avec circonstances aggravantes. Alors au pénal, je demandais 1 euro. Hein. C'est ce qui m'importait, c'était d'apporter la preuve que la cause de ce licenciement était bien ce séminaire particulier et qui n'avait absolument rien à voir avec l'exercice de mon travail. Et en revanche, au prud'homme, finalement, ils ont été condamnés au maximum de ce que la juridiction accorde dans le cadre d'un licenciement.
C'était le séminaire de motivation et la prise d'otage. Un reportage de Brice Gravel réalisé par Jeanne Cherquefosse et mixé par Marie Le Peintre. Merci à Guillaume, à Marc et à Bruno, attaché de production Céline Paris. Et notre stagiaire, c'est Rita Ruggirello. No need to run and hide. It's a wonderful, wonderful life. No need to laugh and cry. It's a wonderful, wonderful life. In your hair, they seem to hate you because you're here. I need a friend, oh, I need a friend to make me happy, not stand here on my own. Let me stand here on my own again, up straight in the sunshine. No need to run and hide. It's a wonderful, wonderful life. No need to laugh and cry. It's a wonderful, wonderful life.